RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel. Et Léa Boutin-Rivière pour le journal.
Bonjour à toutes et à tous. Les relations étaient déjà tendues. Elles deviennent exécrables entre Israël et plusieurs pays occidentaux que l'État hébreu accuse d'incitation à la haine après leurs nombreux appels à cesser les frappes à Gaza et permettre la création d'un État palestinien.
Aux États-Unis, la communauté juive endeuillée est sous le choc.
Après l'assassinat hier de deux employés de l'ambassade israélienne, Washington était jusque-là relativement épargné par les violences antisémites. On s'y rendra dans ce journal. À venir également, la fin du conflit entre Maurice et le Royaume-Uni. Et puis, alors que l'obésité touche plus de 15% des adultes dans le monde, l'Ozempic, traitement phare, est accaparé par des personnes en quête d'ultra-minceur.
16 morts au moins cette nuit à Gaza, 52 hier, l'enclave palestinienne sous les bombes incessantes d'Israël.
Benjamin Netanyahou s'entête malgré les appels au calme d'une partie grandissante de la communauté internationale, malgré les exhortations à la pitié de l'Organisation mondiale de la santé. L'opération Chariot de Gédéon se poursuit inexorablement avec un objectif, prendre le contrôle de toute la bande de Gaza, loin, bien loin donc, des demandes de Paris, Londres ou Ottawa pour créer un État palestinien. Une suggestion inutile selon Benjamin Netanyahou, alors le Premier ministre balaie et va même plus loin, Alice Froussard.
Comme à son habitude, quand Benjamin Netanyahou s'exprime en anglais, c'est qu'il ne s'adresse pas à ses compatriotes, mais au monde entier. Le ton grave, le regard sérieux, le premier ministre israélien recherché par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ne mâche pas ses mots. Il utilise l'attaque contre l'ambassade israélienne à Washington pour faire passer ses messages.
Free Palestine. Free Palestine, c'est juste la version actuelle de Heil Hitler. Ces personnes ne veulent pas d'un État palestinien, elles veulent seulement détruire l'État juif. Elles veulent anéantir le peuple juif qui est sur la terre d'Israël depuis plus de 3500 ans. Je ne comprendrai jamais comment cette simple vérité échappe aux dirigeants français, britanniques, canadiens et d'autres.
Britain, Canada and others. Dans son viseur, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Marc Carney. Lundi, ils avaient annoncé qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face aux attaques scandaleuses d'Israël contre Gaza. Piqué au vif, celui accusé de se maintenir au pouvoir en prolongeant la guerre crie à l'hypocrisie et tourne la situation à son avantage.
Lorsque des tueurs de masse, des violeurs, des tueurs de bébés et des kidnappeurs vous remercient, c'est que vous êtes du mauvais côté de la justice, du mauvais côté de l'humanité et du mauvais côté de l'histoire.
Benjamin Netanyahou avance ensuite qu'il a autorisé l'entrée de l'aide humanitaire, mais oublie de préciser que c'est Israël qui l'a bloqué depuis presque 3 mois et que depuis le 7 octobre 2023, plus de 53 000 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens.
Habitué des confrontations, le Premier ministre israélien s'en est pris hier à la justice. Le chef du gouvernement a décidé de passer outre une décision de la procureure générale qui lui avait interdit de nommer un nouveau chef du Shin Bet, la sécurité intérieure. Peu importe, Benjamin Netanyahou en a désigné un moins de 24 heures plus tard, selon un processus jugé vicié par la procureure.
Et le chef de la diplomatie, lui aussi, a adopté un ton tout particulièrement virulent hier.
Gideon Sarr s'est insurgé contre ses dirigeants, particulièrement en Europe, qui selon lui incite à la haine. Ce qui, a-t-il dit, a un lien direct avec l'assassinat hier de deux employés de l'ambassade israélienne à Washington.
Moins de 24 heures justement après les faits, un suspect a été inculpé.
Un Américain de 30 ans nommé Elias Rodriguez, mis en examen pour assassinat. La communauté juive américaine reste sous le choc et panse ses plaies, Guillaume Nodin.
Le musée juif de Washington est encore bouclé ce mercredi matin au lendemain de l'attaque. Cela n'empêche pas plusieurs membres de la communauté juive de venir avoir une prière ou une pensée pour le couple formé par Yaron Lischinsky et Sarah Milgrim. Parmi ceux qui sont venus, il y a Jeffrey, un juriste, qui a voulu rendre sa présence visible.
I am proud to be a Jew in Washington.
Je suis fier d'être un juif de Washington aujourd'hui. D'habitude, je ne porte pas de kippa au travail, mais j'en ai mis une pour venir ici et montrer que les juifs n'ont pas peur aux États-Unis d'Amérique. Ils ne devraient pas avoir peur, ou quoi que ce soit dans le monde, d'être ouvertement juif.
Pas de signe distinctif pour Kira, qui s'est arrêtée ici après avoir déposé ses enfants à l'école. Pour elle, il y a de l'incompréhension et de la colère contre le tireur.
Cette personne qui dit vouloir libérer la Palestine, je ne suis pas contre certaines idées auxquelles il peut croire, mais ce n'est pas une façon de faire avancer quoi que ce soit. En fait, c'est tout le contraire. C'est le genre de choses qui rend les gens dingues. C'est le genre de choses, je vais vous dire, si je n'avais pas à m'occuper de 3 enfants, j'irais en Israël et je m'enrôlerais dans l'armée.
Kira admet cependant qu'elle ressent une peur qu'elle n'a jamais ressentie à Washington. Elle demande davantage de mesures de sécurité. les statistiques montrent que les actes antisémites sont en hausse aux États-Unis. Guillaume Audin, Washington, RFI.
Washington qui va conserver sa présence sur les îles Chagos. Business as usual donc pour les Américains qui ont établi une base militaire partagée avec des soldats britanniques sur cet archipel. Et c'est d'ailleurs bien la seule chose qui ne change pas puisque Londres et Maurice ont mis fin hier à un conflit vieux de 56 ans au sujet de ces îles. Le Royaume-Uni a reconnu la souveraineté de Port-Louis sur ce territoire dans le giron britannique depuis des décennies. Une issue dont se sont réjouis les Chagossiens hier, Abdoulaye Rally.
Dans le quartier de Pointe-aux-Sables, où vit une grande partie de la communauté chagossienne à Maurice, l'annonce du traité a déclenché des scènes de liesse. 50 ans d'exil prennent fin pour ces familles expulsées de leur terre natale. Les Chagossiens ont chanté, dansé et craqué des pétards, portés par l'émotion, mais surtout un sentiment de justice enfin rendu. Mais une question reste en suspens. Quand et comment ces familles pourront-elles retourner sur l'archipel ? Aucun calendrier n'a été annoncé. Hier, Maurice et le Royaume-Uni ont signé un traité virtuel qui met fin à un contentieux territorial vieux de 56 ans. L'article 1 du traité stipule que Maurice est souveraine sur l'archipel des Chagos dans son intégralité, y compris Diego Garcia. Le premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, a évoqué une reconnaissance sans ambiguïté ni compromis. L'accord a été approuvé par les États-Unis qui conservent leur base militaire sur Diego Garcia grâce à un bail renouvelé de 99 ans. En contrepartie, le Royaume-Uni s'engage à verser à Maurice près de 200 millions d'euros par an pendant 28 ans. Abdullah Erali, Port-Louis. RFI.
RFI 9h06 à Paris, les actionnaires de Total Energy, le nez dans leur portefeuille aujourd'hui.
Et pour cause, le géant pétrolier tient son assemblée générale d'ici quelques heures. Comme tous les ans, une sécurité colossale sera mise en place car, comme tous les ans, les militants écologistes tenteront de se servir de l'événement comme d'une plateforme pour parler des conséquences climatiques de l'exploitation pétrolière. Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
Cette année, l'ambiance est encore plus tendue que d'ordinaire puisque depuis le retour au pouvoir d'un certain Donald Trump, toutes les entreprises du secteur tournent le dos à leurs objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Et oui, l'effet de serre principalement causé par la combustion des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, le cœur de métier de Chevron, BP, ExxonMobil, Shell et donc Total Energy. Et en effet, toutes ou presque, comme galvanisées par le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, abandonnent, amenuisent leurs objectifs climatiques. Le pétrolier britannique BP, par exemple, a décidé en février de diviser par 5 ses investissements dans le bas carbone. Il s'agit pour son nouveau patron, Murray Auchincloss, de repenser fondamentalement la stratégie du groupe pour satisfaire les actionnaires, il ne s'en cache pas. Adieu donc une stratégie climatique qu'on pourrait qualifier d'ambitieuse pour le secteur. On se recentre sur le pétrole et le gaz, un revirement observable chez tous les géants du secteur.
Mais peut-être un peu moins chez Total Energy, il faut le reconnaître.
Alors c'est juste, si on reprend cette comparaison avec BP, le groupe français avait initialement moins d'ambition sur le sujet, mais il a depuis le mérite de grosso modo s'y tenir et bénéficiant des reculs des concurrents, il se retrouve en position d'être le mieux disant en la matière. Cependant, si sa cible de déploiement des énergies renouvelables est maintenue, les moyens qui y sont attribués diminuent avec une réduction de 10% des investissements dans la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. A l'inverse, le groupe accroît ceux pour le pétrole et le gaz. Il annonçait en octobre prévoir une hausse de 3% de ses investissements par an jusqu'en 2030.
Et pour le coup, on est complètement à rebours des objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré.
En effet, pour y parvenir, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a donné le mode d'emploi. C'était en 2021. Pas de nouvel investissement dans le pétrole ou le gaz, on laisse les champs décliner naturellement et en parallèle on électrifie massivement le secteur de l'énergie. Évidemment, chez les pétroliers, on ne l'entend pas de cette oreille. Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, avait eu il y a un an des mots très durs à l'encontre de l'AIE et de son scénario qualifié de théorique. Il se veut beaucoup plus terre à terre et il répond que la demande en pétrole, elle continue d'augmenter et qu'il faut donc y répondre. À court terme, il a raison, c'est juste. À moyen terme, c'est plus discutable. L'AIE anticipe un pic de la demande dans 5 ans, en 2030. Les pays producteurs de pétrole en général prévoient, eux, une augmentation continue jusqu'en 2045. De qui a raison dépendra grandement le succès de la lutte pour limiter le réchauffement climatique et ses conséquences, déjà là et déjà catastrophiques.
Simon Rosé du service environnement de RFI. Le climat, pas une priorité donc des pétroliers, pas une priorité non plus du gouvernement français, contrairement aux questions de la sécurité et de l'islam.
Que l'on retrouve dans le rapport publié aujourd'hui sur l'entrisme islamiste, ce sont les termes officiels.
Le document se penche essentiellement sur les frères musulmans et cela fait réagir jusqu'en Belgique. Lakshmi Lotha, le gouvernement admet qu'il y a un problème.
Selon le rapport de la France, une dizaine de mosquées et 200 personnes font partie de la mouvance des frères musulmans en Belgique. Ces membres infiltrent plusieurs sphères de la société, des associations bruxelloises ainsi que des universités, des clubs sportifs et le monde politique. Ahmed Fahmy est islamologue.
Ils vous diront jamais, publiquement en tout cas, je suis frère musulman. Il y a des élus et des députés qui ont des proximités avec des personnes qui se trouvent dans la mouvance.
Le rapport indique que la Belgique est le carrefour européen des frères musulmans. Un exemple, le collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie est une renaissance à Bruxelles d'une association interdite et dissoute en France. Le ministre belge de l'Intérieur reconnaît un problème. Bernard Quintin compte discuter avec son homologue français.
Si on prend une mesure quelque part et en effet que le problème est déplacé, ça n'aide pas. Nous allons avancer le plus vite possible. J'espère pouvoir venir avec un projet de loi avant la fin de l'année.
Cette loi permettra d'interdire les organisations dangereuses de manière plus rapide qu'en entamant une procédure judiciaire. Lex Milota, Bruxelles, RFI.
Et autre marotte des dirigeants européens, l'immigration. 9 pays, dont l'Italie et la Pologne, ont adressé hier une lettre ouverte à l'UE dans laquelle ils appellent à réinterpréter la Convention européenne des droits de l'homme. Le texte va selon eux trop loin. Il faudrait donc, disent-ils, rétablir l'équilibre, comprendre, être plus restrictif.
Pourtant, les migrations apportent leur lot d'effets positifs.
En témoigne cette étude de l'INSEE publiée hier. L'INSEE, c'est l'Institut français de la statistique et selon ce document, d'une part, l'origine des migrants évolue, mais surtout, Marie-Casa Debé, les migrants sont de plus en plus diplômés.
L'Afrique est désormais le premier continent d'origine des immigrés qui arrivent en France. Elle représente 45% des entrées. La moitié de ces immigrés africains viennent du Maghreb. On retrouve loin derrière les Comores, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. L'immigration européenne est en revanche en net recul. Elle représentait 44% des arrivées en 2006 contre 28% en 2023. Des immigrés toujours plus qualifiés. Aujourd'hui, une personne de plus de 25 ans sur deux est diplômée. C'est chez les immigrés africains que la progression du niveau de formation est la plus forte ces dernières années. Et une fois en France, un immigré sur trois trouve un emploi dans l'année. Ce sont les Européens qui ont le plus de facilité. Plus d'un sur deux travaille dans les 12 premiers mois de son arrivée.
Marie-Casa Debé. Un chiffre pour refermer ce journal, 16%. C'est la proportion d'adultes qui en 2022 souffraient d'obésité selon l'OMS. Et la tendance n'est pas à l'amélioration. Alors en ce 23 mai, journée européenne de lutte contre cette maladie, on se rend en Irlande, où d'après une récente étude, 4 personnes sur 10 pourraient être obèses d'ici 25 ans. Le chiffre inquiète, d'autant que l'un des traitements les plus efficaces, l'Ozempic, est en pénurie dans le pays. Ce médicament initialement est conçu pour les diabétiques, mais il est très prisé depuis quelques mois pour ses effets sur la perte de poids, popularisé notamment par des stars pourtant déjà minces. Résultat, en Irlande, Clémence Pénard, les stocks fondent.
Face à cette pénurie, la pharmacienne Katie Mayer tire la sonnette d'alarme.
En juillet 2023,
j'avais besoin d'environ 25 injections par mois pour mes patients. Et en juillet 2024, je n'en ai reçu que 4, ce qui est insuffisant pour répondre aux besoins de mes patients.
Et la situation ne s'est pas améliorée depuis.
J'ai testé une multitude de régimes, mais chaque tentative se soldait par un échec. J'avais besoin de quelque chose qui force mon corps à faire ce que je n'arrivais pas à obtenir de lui.
Craignant de ne pas pouvoir poursuivre un traitement à l'Ozempic, Paddy, qui souffre d'obésité, s'est tourné vers une alternative, le Mounjaro. Ce qui l'inquiète profondément aujourd'hui, c'est l'essor en Irlande d'un marché noir.
Je le vois régulièrement sur TikTok et Instagram. Les gens proposent l'accès à ces traitements par des voies illégales. Ils en profitent et fournissent ces produits, mais on ignore totalement ce que l'on s'injecte. Dans un espace non réglementé comme ça, c'est tellement dangereux.
Car des doses prétendument amaigrissantes envahissent la République d'Irlande en traversant la frontière nord-irlandaise. Or, leur origine reste opaque et ces injections seraient vendues à des personnes qui ne sont ni diabétiques ni obèses. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
RFI, il est 9h14 ici à Paris.
Et c'était le journal de Léa Boutin-Rivière. Merci beaucoup. RFI Matin, dans les prochaines minutes, on part notamment au Mexique. La colère des familles de disparus après la découverte d'un camp d'extermination tenu par des narcotrafiquants. On appelle aussi notre correspondant au Liban, où la levée des sanctions contre la Syrie ouvre des perspectives. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Avec vous, Catherine Potet, le tour de la presse internationale et à la une, l'offensive de Donald Trump contre Harvard.
Donald Trump a en effet décidé d'interdire à la prestigieuse université d'accueillir des étudiants étrangers. Une décision qui provoque un émoi certain aux États-Unis, mais aussi en Europe, comme nous allons le voir. Aux États-Unis, tout d'abord, le New York Times rapporte que la peur et la confusion ont rapidement gagné hier les étudiants étrangers d'Harvard, qui représentent plus d'un quart des inscriptions. Les diplômes et l'avenir de milliers d'étudiants, une part essentielle de l'identité et de la culture de l'université, sont plongés dans une profonde incertitude, explique le quotidien new-yorkais, qui a interrogé Karl, un étudiant autrichien. Tellement d'étudiants viennent à Harvard pour changer en mieux l'Amérique et leur pays d'origine. Tout risque de s'effondrer. Ça me brise le cœur, témoigne le jeune homme.
En Europe, dont sont originaires une partie de ces étudiants étrangers, l'inquiétude est à l'ordre du jour.
Oui, le journal allemand Die Welt rappelle le contexte. Trump a qualifié Harvard d'institution d'extrême gauche et qui plus est antisémite. Il lui a reproché d'accepter les manifestations pro-palestiniennes sur ses campus. C'est pourquoi, poursuit Die Welt, l'administration américaine a déjà réduit de plusieurs milliards de dollars les subventions accordées à Harvard. En Suisse, le temps remarque que cette décision sur fond de chantage a de quoi effrayer toutes les autres universités. Dehors les étrangers, s'exclame la Repubblica en Italie, qui évoque aussi le préjudice économique de cette décision. Les frais de scolarité payés par les étudiants étrangers sont plus élevés que ceux des étudiants américains. C'est en attirant les jeunes les plus qualifiés du monde entier qu'Harvard a bâti en 4 siècles sa réputation de meilleure université de la planète. Remarque encore la Repubblica.
Dans la presse internationale également ce matin, la photo du jeune couple juif travaillant à l'ambassade d'Israël est abattue hier à Washington.
Photo dans le Wall Street Journal notamment, lui souriant, tenant un verre à la main, elle toute de rose vêtue, parlant devant un micro. Ils étaient jeunes et amoureux. Selon leurs proches, ils consacraient tous leurs efforts à la paix, raconte le quotidien américain. La veille de son assassinat, poursuit le Wall Street Journal, Yaron Lischinsky cherchait anxieusement une alternative à un vol annulé vers Israël. Il emmenait sa petite amie rencontrer ses parents pour la première fois à Jérusalem. Il comptait la demander en mariage pendant le voyage. Le quotidien américain a par ailleurs interrogé Ailet Razin, experte israélienne en droits de l'homme, également amie de la jeune femme tuée, Sarah Milgrim. Elle était jeune et pleine de vie, dit-elle. Cet antisémitisme qu'elle s'était donné pour mission de combattre lui a tragiquement coûté la vie. Lorsqu'ils ont été tués mercredi soir, précise le journal, Yaron et Sarah venaient d'assister à une réunion de jeunes diplomates pour promouvoir la collaboration israélo-palestinienne et régionale et répondre à la crise humanitaire à Gaza.
Et en Israël, le Jérusalem Post évoque également le drame et fait le lien d'une certaine manière avec l'université d'Harvard dont nous parlions tout à l'heure.
Le Jérusalem Post se demande si Trump va sévir contre les militants anti-israéliens, alors que, dit-il, le président américain a mené ces derniers mois une offensive contre l'activisme pro-palestinien. Et le Jérusalem Post prend les étudiants pour exemple, indiquant que l'administration américaine a cherché à expulser les étudiants militants, gelant des milliards de financements universitaires exigeant des réformes dans leur lutte contre l'antisémitisme. Le quotidien israélien ajoute qu'à ce titre, l'administration américaine a retiré hier à l'université d'Harvard son autorisation d'accueillir des étudiants étrangers. Enfin, le journal Haaretz, quotidien d'opposition israélien, publie une tribune intitulée « L'antisémitisme meurtrier n'empêchera pas les juifs de Washington de parler à voix haute ».
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup. C'est un chiffre qui hante tout un pays. 120 000 disparus et des centaines de milliers de personnes tuées en moins de 20 ans. La violence des cartels de la drogue au Mexique est une fois de plus revenue au cœur de l'actualité ces dernières semaines avec une découverte horrible, un camp d'extermination tenu par des narcotrafiquants où au moins 1500 personnes auraient été torturées, violées et exécutées. Depuis, les familles de disparus accusent de plus belle l'État mexicain d'inaction et sortent désormais chercher elles-mêmes les restes de leurs proches. Reportage Marine Lebeg.
Machette et pioche en main, une trentaine de bénévoles s'alignent à l'entrée de Larusco, une forêt de pins au sud de Mexico City.
On va commencer cette journée de recherche en invoquant la divinité chercheuse qui marche à nos côtés. Que la lumière de ceux que nous cherchons illumine le chemin jusqu'à ce que nous les trouvions et nous les ramenions à la maison.
Parmi eux, Esteban Gallardo, vêtu d'un t-shirt où apparaît une photo de sa sœur Pamela, disparue à l'âge de 23 ans.
Oui. Aujourd'hui, on fait une nouvelle journée de recherche afin de comprendre ce qu'il s'est passé et trouver un indice. Elle a disparu il y a 7 ans, justement ici, et nous n'avions pas encore eu l'opportunité de chercher dans cette zone précise de Larusco.
À ses côtés, sa cousine donne les dernières directives aux bénévoles.
On va chercher des ossements. Si vous trouvez des vêtements, des bouteilles d'alcool vide, etc., concentrez-vous sur cet endroit, car c'est probablement là où ils sont restés un moment et où ils ont pu tuer.
Les recherches vont durer 4 jours. La famille de Pamela, accompagnée de bénévoles, de pompiers et d'anthropologues, vont passer cette partie de la forêt au peigne fin. Cette fois-ci, des membres du parquet spécialisé contre les disparitions forcées se sont joints à eux. Mais Esteban Gallardo, comme les autres familles de disparus, ne leur font plus confiance.
Au-delà de me sentir abandonné et invisible, je me sens frustré. Ça me frustre de savoir que le parquet aurait déjà pu retrouver ma sœur et d'autres personnes avec toutes les informations et tous les éléments que les familles elles-mêmes trouvent et leur donnent.
À quelques mètres de là, l'un des bénévoles met la main sur un os. L'anthropologue s'approche.
C'est animal. On le voit à l'épaisseur, c'est un os animal.
Fausse alerte. Les recherches continuent. Il ne faut oublier aucun recoin du secteur désigné aujourd'hui, car demain, ce sera une autre zone de cette forêt de 1000 hectares qui sera fouillée. Une quête sans fin qu'Esteban continue au prix de nombreux sacrifices.
Même si on a un travail, des activités, une vie, quand ces sessions de recherche s'organisent, on arrête tout pour venir. Avoir le moindre indice sur elle, savoir dans quelles conditions elle se trouve, ça nous permettrait d'avancer vers un possible deuil. Mais ne pas savoir ce qui lui est arrivé conditionne toutes nos actions, que ce soit dans la vie personnelle, familiale ou sociale.
Une situation ambiguë que vivent les familles des plus de 120 000 personnes portées disparues au Mexique à ce jour. Après la découverte d'un camp d'extermination dans l'ouest du pays, Claudia Sheinbaum a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre les disparitions forcées, toutes jugées déjà existantes ou inutiles par les familles. Marine Le Beg, Mexico, RFI.
Reportage à retrouver sur RFI.fr. Et c'était il y a 10 jours, le 13 mai, une annonce attendue de pied ferme et célébrée comme il se doit en Syrie. Le président américain Donald Trump a décidé de lever les sanctions contre Damas. L'Union européenne lui a emboîté le pas cette semaine. Et la Syrie se prépare donc à réintégrer les institutions et les réseaux économiques et financiers internationaux. Une bouffée d'air pour le pays, mais aussi un espoir pour ses voisins. Bonjour Paul Ralifé.
Bonjour Julien, bonjour tout le monde.
Correspondant de RFI à Beyrouth, au Liban, l'un des pays les plus directement affectés par la guerre qui a ravagé la Syrie et par les sanctions imposées contre le régime de Bachar al-Assad. Pour le Liban, cette levée des restrictions ouvre notamment des perspectives sur le plan migratoire.
Effectivement, Julien, le président de la transition en Syrie, Ahmad al-Shara, avait lié le retour des réfugiés à la levée des sanctions. C'est maintenant chose faite et le Liban espère que cette mesure allégera le fardeau économique et social qu'il supporte difficilement à cause de la présence sur son territoire de plus d'1,5 million de Syriens, soit le quart de la population. Désormais, tous les obstacles qui empêchaient le retour volontaire des réfugiés et des déplacés sont levés. L'abolition des sanctions va certainement relancer l'activité économique et le processus de reconstruction, ce qui va forcément créer des opportunités d'emploi en Syrie. Ceux qui s'étaient réfugiés au Liban pour des raisons économiques envisagent déjà leur retour. Des milliers de familles ont d'ailleurs commencé à rentrer dans leurs villes et villages. Des milliers d'autres planifient de le faire dans les semaines et les mois qui viennent.
Paul, la levée des sanctions pourrait également permettre d'améliorer l'alimentation du Liban en électricité via les réseaux jordaniens et égyptiens.
Ce projet existe depuis des années, mais sa mise en œuvre était entravée par la loi César, car la Jordanie et l'Égypte n'ont jamais pu obtenir les garanties américaines nécessaires pour les mettre à l'abri des lourdes pénalisations prévues par la loi César en cas de relations économiques et financières avec l'ancien régime syrien. Avec la levée des sanctions, la Jordanie pourra alimenter le Liban en électricité à hauteur de 250 mégawatts via le réseau syrien. Le gaz égyptien acheminé via la Jordanie et la Syrie permettra de produire 900 mégawatts. Ces deux initiatives apporteront au Liban le tiers de ses besoins énergétiques et permettront de fournir 10 heures d'électricité par jour au lieu des 2 heures aujourd'hui disponibles.
Et Paul, le secteur bancaire libanais peut-il profiter de la levée des sanctions américaines ?
Le Liban était de tout temps considéré comme le poumon économique et financier de la Syrie. La réintégration de cette dernière au réseau SWIFT et IBAN sera d'un grand bénéfice pour les banques libanaises qui redeviendront un couloir de transit pour des capitaux à destination de Syrie. Avec 5 établissements installés à Damas, les banques libanaises sont les seules banques étrangères encore présentes dans ce pays. Cette présence, couplée au savoir-faire libanais, offre au secteur bancaire libanais une position privilégiée dans les processus de relance de l'économie et de la reconstruction. Les entrepreneurs, les commerçants, les banquiers et les industriels libanais sont bien positionnés pour prendre une part de l'immense potentiel offert par le marché syrien. Ce positionnement contribuera certainement à alléger l'impact de la crise économique qui frappe le Liban depuis 2019.
Paul Ralifé à Beyrouth pour RFI. Merci beaucoup. Très bonne journée. Et dans les dessous de l'Infox ce matin, on parle du pape Léon XIV. Deux semaines après son élection, des comptes sur les réseaux sociaux tentent déjà de manipuler sa parole. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Depuis son arrivée à la tête du Saint-Siège, le pape Léon XIV est l'objet d'infox et le plus souvent de propos qui lui sont attribués mais qu'il n'a jamais tenus. Parmi ces fausses déclarations, il y en a une qui a retenu votre attention.
Cette infox, nous l'avons trouvée avec l'aide du journaliste arabophone Al Arzam, qui était avec nous à la cellule Info Vérif cette semaine. La fausse information prend la forme de tweets sur X et de posts sur Facebook, rédigés en arabe, laissant penser à tort que le nouveau pape a tenu des propos anti-islam ou racistes. Dans une vidéo d'une dizaine de minutes, on le verrait dénoncer une invasion de l'Europe par des musulmans, détaillant une soi-disant stratégie visant à changer l'identité chrétienne du continent européen. En réalité, le nouveau pape n'a jamais dit ça, que ce soit d'ailleurs avant ou après le début de son pontificat.
Et pourtant, cette vidéo est particulièrement trompeuse.
Oui, car la personne qui prononce ce discours ressemble beaucoup au pape Léon XIV. Donc tout d'abord, on a cherché à savoir si la vidéo n'avait pas été générée par un outil d'intelligence artificielle, puisque c'est déjà arrivé pour donner naissance à un pape virtuel. Le logiciel que nous avons employé nous a indiqué qu'il y avait 0% de chance pour que cette vidéo ait été fabriquée par l'IA, donc pas d'hypertrucage. Comme la ressemblance était vraiment frappante, on a ensuite utilisé un logiciel gratuit permettant de détecter les sosies. Résultat, entre 49 et 55% de similarité entre le visage de l'homme qui apparaît sur la vidéo et le portrait du pape Léon XIV. Ça fait à peu près une chance sur deux pour que ce soit lui à l'image. Pas suffisant pour en tirer des conclusions, surtout que l'on sait que ces outils ne sont pas fiables à 100%.
Donc, avez-vous trouvé qui est ce faux pape ?
Oui, une recherche par image inversée nous a permis de retrouver la trace sur YouTube d'une longue vidéo dont la dernière partie correspond à l'extrait que l'on trouve dans l'infox. La personne que l'on voit à l'écran est bien un homme d'église, c'est l'évêque d'Astana au Kazakhstan. Il s'appelle Athanasius Schneider et il est connu pour ses prises de position conservatrices et il a fait ses déclarations sur cette prétendue invasion de l'Europe lors d'une rencontre filmée dans une petite église du New Jersey aux États-Unis. Le 23 octobre 2016, on retrouve d'ailleurs des photos de son passage sur le site internet de la paroisse.
On est donc face à une infox utilisant une vidéo sortie de son contexte, jouant sur une forte ressemblance entre cet évêque et le pape, afin de marquer les esprits.
Exactement. D'ailleurs, si l'on s'attarde sur l'image, on voit que celui qui est présenté comme le pape porte la soutane violette des évêques et non la grande tenue blanche du souverain pontife. L'audio donne aussi des indications. L'accent de Léon XIV est bien celui d'un natif des États-Unis, alors que l'anglais de l'évêque Schneider est beaucoup plus hésitant. Enfin, rappelons que toutes les déclarations publiques du pape sont disponibles sur le site officiel Vatican News. Donc, si vous avez un doute, allez-y. D'ailleurs, le Vatican fait aussi du fact-checking.
Les dessous de l'infox avec vous, Olivier Four. Merci beaucoup. Bientôt 7h30 en temps universel.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amard. À l'occasion de l'exposition Mission Dakar Djibouti contre-enquête, nous reviendrons sur le pillage d'objets d'art africains dans les années 30. Que racontent ces collectes sur la colonisation? Comment restituer les objets spoliés? L'historienne de l'art Bénédicte Savoie et la commissaire Gaëlle Beaujean seront avec nous.
Sur le pont des arts,
avec la compagnie Corsair,
du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Viva Technologies, le plus grand événement start-up et tech en Europe, revient du 11 au 14 juin à Paris, porte de Versailles. C'est le lieu où les discussions se concrétisent, les opportunités business se créent et les partenariats prennent vie. Viva Technologies, vibrez au rythme de l'innovation. Plus d'informations sur vivatech.com. En partenariat avec France Média Monde.